Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Good morning business, le grand débat.
Les meilleurs sont là, à 8h38. Wilfried Galland et Jean-Marc Daniel pour le grand débat. On va débriefer l'actualité économique de la journée. Bah d'abord, avec quand même les marchés financiers, la Bourse de Paris qui devrait encore ouvrir en hausse aujourd'hui, après avoir franchi le cap des 7000 points vendredi. Est-ce que les arbres peuvent monter jusqu'au ciel, Wilfried Galland? Parce que nous, on avait cru comprendre que la situation économique n'était pas complètement apaisée et que le ciel n'était pas complètement dégagé. Hein.
Bah, le principe des marchés, c'est qu'effectivement, régulièrement, le ciel se rehausse. Hein. Donc effectivement, structurellement, les marchés montent parce que les entrepreneurs et les entreprises qui sont cotées sur ces marchés créent de la valeur. Ouais. Et donc ça, c'est très positif.
Une parenthèse, vous avez vu Hermès, 1000 euros placés dans Hermès il y a 5 ans. Ouais. 3400 euros aujourd'hui, c'est le palmarès BFM Business.
Absolument.
Retrouvé sur le site internet.
Une réussite absolument exceptionnelle. En revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les marchés, c'est pas un baromètre de l'économie. Les marchés fixent des prix en fonction du niveau du risque, du niveau du temps, et en fonction des perspectives. Et ils fixent des prix des actifs qui y sont cotés. Donc c'est pas du tout représentatif quand vous avez effectivement Hermès, LVMH, Apple, Amazon, et Microsoft et Alphabet. Ça représente absolument pas le tissu économique local dans lequel nous pouvons évoluer au quotidien. Et c'est vrai qu'il y a un décalage entre une perception locale et une perception très réelle de l'économie. Il y a une perception non moins réelle, mais d'une économie qui est très mondialisée, qui dépend beaucoup des taux d'intérêt, qui dépend beaucoup des banquiers centraux, qui dépend beaucoup et de façon immédiate des projections, par exemple, sur les matières premières. En France, on sait que l'impact des matières premières est différé, amorti, avec des mécanismes étatiques, locaux, de taxes. Donc, effectivement, on a ce sentiment de décalage. Néanmoins, ce qu'il faut quand même bien voir, c'est qu'on a deux éléments qui tirent profondément les marchés vers le haut. D'abord, c'est le sentiment que la hausse de l'inflation, donc la hausse des taux, est derrière nous. Alors, à quelle vitesse ? Moi, j'en suis convaincu. On en avait parlé. Je faisais partie des gens qui, il y a quelques mois, parlaient d'un effondrement possible des indices d'inflation. On est dans ce phénomène-là en ce moment. Ça peut remonter.
Effondrement, carrément.
Ouais, exactement. Parce que quand on regardait les indicateurs avancés d'inflation, on voyait que ces indices étaient en train de véritablement de s'effondrer aux États-Unis en particulier. On pourrait avoir d'ici quelques mois, sans reprise forte des matières premières, on pourrait avoir un taux d'inflation à la fin de l'été autour de 2%, voire inférieur aux États-Unis.
Mais le sans reprise forte des matières premières, c'est un gros si quand même.
Exactement, parce que ce qui change la donne, c'est l'évaluation de la relance chinoise. Et la relance chinoise, c'est ce qui tire les marchés. Donc aujourd'hui, les marchés disent on va faire de la relance par la consommation, d'où le luxe, d'où des valeurs, par exemple, comme le sport et bien-être, Nike, Adidas, qui ont très très bien fonctionné ces derniers jours. Et ça ne va pas nécessairement faire remonter les matières premières, parce que la Chine ne va pas accélérer comme avant sur les infrastructures, l'immobilier, elle va être beaucoup plus prudente. C'est un peu l'équilibre magique que nous donnent les marchés. C'est-à-dire que oui, on va avoir cette relance de la consommation, mais non, on ne va pas avoir de pression trop forte des matières premières. On voit quand même qu'on est en train d'avoir une certaine pression sur le pétrole. Hein. On a repris 10% depuis les plus bas. Donc là, on est pas loin d'un mécanisme qui pourrait refaire redémarrer l'inflation à la fin de l'année. Donc attention, c'est toujours la même chose. Hein. Quand on pense que tout va bien et que la hausse est installée pour durer de façon puissante, c'est le moment où quelques déséquilibres ont lieu. Ce serait plutôt une bonne nouvelle, et je terminerai par là, si on est sur le même rythme que les deux premières semaines sur les marchés. On aurait un CAC 40 multiplié par 5 sur l'année à 35 000 points, ça me paraît probablement.
Oui, peu probable.
Un tout petit peu exagéré, non?
Jean-Marc, un CAC à 35 000 points.
Oui, non, je, pour compléter ce qu'on vient de dire, d'abord, je pense qu'effectivement, il n'y a pas d'inflation. Il y a eu une hausse brutale de certains prix, mais il n'y a pas d'inflation. Et il y a même des économistes qui commencent à dire que non seulement l'indice des prix va cesser d'augmenter très rapidement, mais en plus il va se contracter, ouais. C'est-à-dire qu'on voit des prix qui baissent de façon significative aux États-Unis, le prix de l'informatique, le prix de certaines denrées alimentaires, la viande commence à baisser aux États-Unis, ouais. Ce qui continue à augmenter aux États-Unis, en fait, c'est les prix qui sont plus ou moins administrés. Le prix qui a le plus augmenté, c'est les cantines scolaires, qui sont prix qui est déterminé par des décisions qui sont prises en général au niveau des États. Et donc ce paramètre-là est probablement largement derrière nous. L'entrée l'entrée de la Chine sur le marché, en fait, la croissance de la Chine s'est faite dans les années 2000 avec des prix du pétrole qui étaient relativement stabilisés et avec de toute façon une absence totale d'inflation. Donc c'est pas parce que la Chine va se remettre à produire qu'il va y avoir de l'inflation. Elle va se remettre à produire, elle va consommer des matières premières, mais elle va mettre sur le marché des produits dont les prix vont baisser. Alors après, sur le CAC lui-même, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on va dépasser 7000. Je rappelle qu'au départ, on était à 1000. La base, c'est 1000.
Au départ du départ.
Oui. Donc, au milieu des années 80, la question qui se pose, c'est est-ce que ces 7000, c'est totalement déconnecté de l'évolution de
l'économie réelle,
ouais. L'économie réelle. Pas du tout. Ah, oui, c'est à peu près l'évolution, compte tenu de l'inflation et de la croissance, c'est à peu près l'évolution du PIB. Et donc, grosso modo, quand on est investi en bourse, il y a trois attitudes. Ou bien on est là pour spéculer. Et le but de la spéculation, c'est de prendre à quelqu'un qui est plus naïf que vous, moins bien informé, tout ça. Bon. C'est un monde un peu particulier. Ensuite, il y a le placement de l'épargne. Donc, on place l'épargne. Donc, on a un objectif qui est un objectif à moyen long terme. Et à ce moment-là, on a intérêt à rester assez longtemps en bourse, à mon avis. C'est-à-dire qu'effectivement, on va bénéficier de la productivité qui va faire la croissance économique. Et donc, on reste et on prend les 7000 après avoir été à 1000.
Et là, en général, à ce moment-là, Jean-Marc Daniel dit « Et vive la retraite par capitalisation ».
Et donc, à ce moment-là, vive la
retraite. C'est dommage, on ne peut pas en profiter.
Et tout le monde peut enfin profiter de tous ces dividendes. Ils tombent en permanence.
Bon, et puis alors, la troisième, il y a des aspects un peu, je dirais, un peu sentimentaux. Vous savez, il y a la veuve de Carpentras, on l'associe assez systématiquement à Air Liquide. Vous avez des titres comme ça, où il y a le titre magique, le titre qui est une valeur sûre et tout ça. Et donc là, effectivement, on rejoint le luxe et on peut gagner apparemment beaucoup d'argent sur certains secteurs très déterminés. Mais à mon avis, le mieux quand on est un épargnant, c'est la deuxième attitude. Et effectivement, pourquoi pas passer par un plan d'épargne-retraite.
Choisir un excellent gérant, comme on pensait.
Voilà, choisir un excellent gérant. Ah oui.
En plus, un excellent gérant. Wilfried Galland, vous disiez quelque chose de très intéressant tout à l'heure, c'est que il y a une forme de dichotomie finalement dans l'économie entre les grands groupes qui profitent effectivement de toute la palette de leurs activités mondiales, de l'arbitrage, de la pression des marchés, et puis le tissu des PME qui est plus sensible aux aléas de la conjoncture. Et ça nous marque beaucoup sur ce plateau. Parfois, on comprend pas l'écart effectivement entre l'optimisme des grands groupes et l'inquiétude des plus petits.
Ouais, c'est ce que j'ai appelé les réalités parallèles. Il s'agit pas de dire il y en a une qui est plus réelle que l'autre, mais effectivement. Et si je rebondis sur ce que vient de dire Jean-Marc, si on fait l'analogie avec les placements boursiers, les grands groupes bénéficient de la largeur et de la diversification maximale, alors que les PME sont ancrées souvent sur un marché local, avec un secteur spécifique, avec un marché de l'emploi aussi qui est très localisé, très spécifique, avec ses difficultés. C'est beaucoup plus facile quand vous êtes un groupe mondial. Il y a d'autres contraintes, parce que c'est vrai que d'un seul coup, quand vous devez gérer le fait que la Chine se confine, il faut effectivement gérer les aspects production, gestion des équipes, c'est plus compliqué. Mais ça permet de profiter des poches de croissance qu'on a dans l'économie mondiale. Et souvent, systématiquement, dans les économies, en particulier les économies en rattrapage, comme les économies émergentes, ça permet effectivement d'avoir une création de valeur qui est souvent supérieure, et donc une augmentation de la productivité dans ces pays qui est souvent supérieure à celle qu'on peut avoir.
Mais d'où le problème de taille de nos ETI, de nos PME qui sont pas toujours assez grosses, pas toujours assez internationalisées pour être plus agiles, en fait.
Absolument. En fait, pour profiter de toutes les opportunités, il faut arriver à avoir une certaine taille critique. Et cette taille critique, elle s'obtient sur les marchés, elle s'obtient avec des financements, elle s'obtient aussi avec des ressources humaines qui soient adéquates. Et c'est vrai que quand on compare les grandes entreprises mondialisées avec le tissu des PME, ils sont aussi beaucoup plus contraints, ce tissu de PME, par les réglementations locales. Et là, je vais aborder un thème qui est cher à Jean-Marc, c'est-à-dire que plus effectivement on rigidifie un certain nombre d'éléments à l'intérieur des entreprises et dans les relations entre les entreprises, les fournisseurs et les employés.
On va y arriver.
Plus quand vous êtes mondialisé, vous arrivez à trouver des solutions de contournement d'une certaine façon. Moins vous l'êtes, plus vous êtes dépendant des législations locales, et on voit que ça a tendance à se rigidifier de plus en plus. On a ce poids de ce qu'on appelait la souveraineté qui pèse de plus en plus, et ça, pour la création de valeur, parfois c'est un peu compliqué.
Alors, le sujet qui nous anime depuis une semaine et qui nous a beaucoup animé ce matin, c'est la passe d'armes entre les distributeurs et les industriels. Il y a ce projet de loi qui est discuté aujourd'hui et demain au Parlement, projet de loi Descrozaille, où les distributeurs sont tous vent debout, en bataille de communiqués pendant le week-end. On a reçu tout à l'heure le patron de l'ILEC qui, lui, représente les industriels. Bon, chacun peut choisir son camp, mais là, clairement, Jean-Marc Daniel, on est sur un sujet de concurrence, de mauvaise administration de la concurrence.
Oui, tout à fait. Oui, je pense qu'il faut faire et laisser jouer la concurrence. Écoutez, il fut une époque, on en parlait tout à l'heure avec Wilfried Hoff, il fut une époque où il y avait une direction générale des prix et on allait négocier rue de Rivoli les prix, et donc les prix étaient affichés. On n'a jamais eu autant d'inflation. Pendant toute la période des années 50-60 où il y avait la direction générale des prix, et il n'y a jamais eu autant d'inflation. Et puis depuis 1986, quand même, sur le plan juridique, puisqu'il est question de faire une loi, il y a une loi simple, l'ordonnance de décembre 1986, dont l'article premier précise que c'est la concurrence qui, en France, détermine les prix.
Mais la question, c'est pas celle-là, Jean-Marc, c'est quand on n'arrive pas à se mettre d'accord, ce qui arrive tous les ans entre les géants de la grande distribution et les géants de l'industrie agroalimentaire, quand on n'arrive pas à se mettre d'accord, le 1er mars, effectivement, comme le dit Laure, qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce que, jusqu'à présent, on appliquait les conditions d'avant, on prorogeait, en fait, la négociation précédente, la loi dit, non, là, on prend le prix catalogue et on repart une... Si vous entendez pas, vous livrez pas, et si vous voulez vous entendre, vous repartez sur la base des prix actuels.
Oui, ce que les lois sur la concurrence précisent, c'est que vous n'avez pas fait le droit de faire un du refus de vente, vous n'avez pas le droit de refuser de vente.
C'est pas à quel prix?
Après, vous avez un prix, le prix il est déterminé encore une fois par la concurrence. Vous affichez un prix, si vous trouvez personne pour le prendre à ce prix-là, vous baissez votre prix. Si vous trouvez quelqu'un, vous...
Ça dépend si vous dites que je suis Coca-Cola et que une enseigne de la grande distribution ne peut pas se passer de mon produit trop longtemps, une semaine, 15 jours, ça va faire rire les clients, après ça va juste me faire une baisse de mes ventes, donc Coca-Cola va imposer une hausse de 30 ou 40%.
Oui, c'est parce que Coca-Cola sont en situation de monopole.
Pas de monopole, mais de force.
Encore une fois, vous n'avez pas le droit de faire du refus de vente. Et en situation de refus de vente, quand vous êtes en situation de monopole, vous pouvez dire effectivement, moi, c'est à ce prix-là où je passe ailleurs.
C'est un peu le risque.
Oui, c'est le risque. Sauf que encore une fois, à ce moment-là, la réponse qui doit être faite par les autorités, c'est de rétablir la concurrence. Et donc, le véritable enjeu sur Coca-Cola, c'est assez intéressant, parce qu'il y a tout un débat aux États-Unis. Est-ce que Coca-Cola, c'est un monopole? Puis s'ils disent, on a une formule, une formule. Et à ce moment-là, on leur dit, puisque vous êtes un monopole, les lois sur la concurrence vous obligent à livrer la formule magique qui est enfermée dans un coffre-fort à Atlanta pour fabriquer du Coca-Cola, pour que tout le monde puisse fabriquer du Coca-Cola.
Dans la clé de son abus.
Et ils répondent, écoutez, c'est un argument de vente, en réalité.
On est plusieurs.
Il y a Pepsi, c'est à peu près la même chose que nous. Donc, effectivement, il appartient quand même aux autorités de la concurrence de ne pas se laisser avoir par le discours marketing des entreprises.
Wilfried Galland, vous qui êtes un éminent spécialiste de l'économie, vous arrivez à voir dans ce débat entre distributeurs et industriels qui essaye de marcher sur l'autre, où il y a finalement un rapport de force quasiment égalitaire?
Je pense que d'abord, on arrive au bout d'une certaine logique, qui était une logique de confrontation permanente, et de rapports extraordinairement violents. Il suffit d'interroger les industriels qui négocient régulièrement avec la grande distribution, d'un rapport extrêmement violent au moment justement des pressions de prix. Enfin, il y avait des anecdotes qui circulaient physique, exactement, des pressions considérables. Et donc là, tout ressort. À l'occasion de cette loi et à l'occasion des pressions inflationnistes, tout est en train de ressortir en termes d'animosité, de rancœur et de relations véritablement très passionnées.
C'est
on n'est plus
que
du tout sur un débat économique basique.
On est surpris
basique.
De voir, même dans les regards, dans les yeux.
Très dur.
Ils sont très durs entre eux, la grande distribution et les industriels de l'agroalimentaire.
Je pense qu'il y a
vous dites qu'il faut arrêter?
Ce qui est très compliqué, c'est qu'effectivement, normalement, ça se résout avec la concurrence. C'est-à-dire, ça se résout à la fois avec la concurrence entre les industriels et aussi entre les distributeurs. Le problème, c'est que vous avez créé aussi de tels mastodontes en termes de centrales qu'en fait, vous avez une situation qui est, on va dire, au mieux oligopolistique.
C'est ça.
Et donc, par rapport à un tissu productif qui est très éclaté et à une bascule progressive des politiques publiques vers la production, en disant il faut aider tous ceux qui produisent et non pas être en permanence du côté de ceux qui consomment, ce qui est probablement une illusion, mais on voit qu'on est peut-être allé trop loin sur la négligence des facteurs de production au sein d'une même zone. qu'en fait, cette loi vise à rééquilibrer les choses, mais vient d'un seul coup dans un paysage tellement tendu qu'on a l'impression qu'en fait, on va jamais s'entendre sur les prix. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va s'entendre sur les quantités. C'est-à-dire qu'on va avoir des problématiques de pénurie qui vont se mettre en place, des problématiques effectivement de stockage qui vont avoir lieu à droite à gauche, voire des problématiques de produits qui vont disparaître parce qu'ils vont ils vont être obsolètes. Enfin, on n'est plus capable de le gérer tout simplement avec un signal prix tout à fait standard en économie.
En laissant le consommateur être le juge.
Voilà, quoi. Et comme finalement dans les marchés classiques qui se déroulent dans chaque ville et dans chaque commune de France, où si vous présentez votre kilo de pomme à 3 euros et de l'autre côté vous avez un kilo de pomme à 2 euros identique, à un moment donné la concurrence va faire que ça va se rééquilibrer. Mais là, le marché, on a l'impression qu'il est tellement... il est structuré de telle sorte qu'il favorise les rapports de force, et les rapports de force très passionnés. Je ne sais pas comment on peut sortir de ça.
C'est oligopole contre oligopole. Jacques Ressel disait ce matin, il y a deux industriels en France qui contrôlent 70% des marges nationales. Donc, ce n'est pas beaucoup mieux du côté des industriels que du côté des distributeurs, Jean-Marc.
Exactement, oui. On est même dans une situation... Alors, quand vous avez deux monopoles qui sont en face à face, donc un monopole et un monopsone, on démontre en théorie économique qu'il ne peut pas y avoir de prix de marché, il y a un prix de rapport de force.
Mmh. Et
donc,
c'est le cas, hein, un peu. Et même voilà, si ce n'est pas des monopoles, c'est des oligopoles,
face à des oligopsones. Donc la seule solution, effectivement, pour l'État, c'est de recréer le marché. C'est-à-dire, c'est pas de faire des lois en disant il faut protéger tel ou tel. En général,
mais comment il recrée le marché, l'État ?
Eh bien, l'État, il interdit ces négociations. Il dit voilà, mais un tel, vous allez vous débrouiller, vous allez aller voir le tel ou tel producteur, et puis vous allez vous entendre avec lui. Et puis tel producteur, vous allez démarcher tel ou tel distributeur, et puis vous allez avoir directement avec lui. Il n'y a pas besoin d'une négociation centralisée. Chacun doit s'entendre dans son domaine avec les gens qu'il considère comme étant les plus efficaces. Parce qu'encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, selon Frédéric Bastiat, l'avantage du consommateur, c'est qu'il est l'humanité. Le producteur, c'est un petit morceau de l'humanité. Le distributeur, c'est un petit morceau de l'humanité. Le consommateur, c'est l'humanité. Tout le monde est consommateur.
En fait, le débat, c'est effectivement comment est-ce qu'on sort de ce fantasme de l'économie administrée, de ce fantasme de ce que Karl Popper appelait les constructivistes, c'est-à-dire ceux qui effectivement construisent des choses de haut, très technocratiques, et qui effectivement ne fonctionnent pas dans le cadre d'une économie libre où chaque entité défend ses propres intérêts. Donc il faut retrouver effectivement cette fluidité qu'on n'a pas du tout, et effectivement dans les rapports qu'on voit entre les distributeurs et les industriels, on n'a pas du tout cette fluidité, et encore moins cette confiance, parce que l'économie de la confiance, elle est indispensable si on veut faire fonctionner une économie libérale. Si vous n'avez pas confiance dans votre interlocuteur, ça ne marche pas, et c'est exactement ce qui est en train de se passer.
Bon, on va suivre ça évidemment toute la journée, notamment avec la conférence de presse commune, ce qui est quand même aussi étonnant, entre les députés Renaissance, auteurs de la proposition de loi, et les industriels.
Qui n'ont pas écrit la loi, c'est ce qu'on...
C'est ce qu'il nous a dit.
Absolument, je vous invite à réécouter le replay de notre invité de 8h15, Richard Panquiot, directeur général de l'Institut de liaison des industries de consommation, c'est l'ILEC. Dans un instant, vous retrouvez Nicolas Dos sur BFM Business. Il reçoit aujourd'hui Patrick Bertrand, Eli Cohen et Christian Poyot.
Tout ça dans Les Experts, à suivre donc dans quelques instants. Puis n'oubliez pas que c'est le démarrage de Davos ce soir, hein, et que BFM Business est mobilisé tout au long de cette semaine autour d'Edith Chevrillon, de Latanco Campo, pour vous faire vivre cet événement, cette... combien d'éditions ?
53e édition, je crois.
Ouais. 53e édition, je crois, effectivement, du Forum économique de Davos.
On se retrouve demain, 6h, 9h. Bonne journée.